Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Je ne suis pas gros.
Les grandes gueules du sport.
J'ai un peu enveloppé, je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Georges Quilineau.
Et on salue Obélix qui a fait son apparition. Lui, il a le droit de le dire. Enfin, du coup, nous, on n'a pas le droit de le dire.
Voilà.
Les grandes gueules du sport avec David Douillet, Fred Weiss, Fred Le Canu, Christophe Cessieux. Ce matin, dans quelques instants, tiens, on va parler de judo parce que l'hymne et le drapeau russe sont de retour. Est-ce compréhensible l'hymne russe qui a été entendu hier, notamment sur le Grand Slam d'Abu Dhabi. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Vous pouvez remporter aujourd'hui un magnifique séjour pour deux personnes à l'hôtel Talacap de l'île de Ré. Séjour qui comprend nuitée, petit-déj, déjeuner à la table de Grignon, trois soins thalasso. Franchement, ça vaut le coup. Là. Beau cadeau avant les fêtes pour remporter votre séjour Talacap à l'île de Ré. Appelez le 3216, touche 4 ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16 et réfléchissez déjà, tiens, avec qui vous avez envie de jouer au jeu tout à l'heure. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui a attiré notre attention, c'est l'extrême prudence des San Antonio Spurs pour ne pas précipiter le retour de Victor Wembanyama. Malgré une prépa estivale de haut niveau après sa longue blessure, on rappelle une thrombose à l'épaule l'an passé, l'intérieur français s'est à nouveau blessé mais au mollet gauche. La franchise texane réfléchit à la meilleure façon en fait de protéger désormais son prodige de 2m24. Souvenez-vous, on avait dit qu'il avait encore grandi cet été. Mitch Johnson, le coach des Spurs, dit ceci, je le cite. Ce qui est difficile en matière médicale ou même de performance, et quand on regarde les données de la science du sport, c'est quand on utilise des infos passées pour faire des prévisions sur l'avenir. Il n'y a donc pas beaucoup d'exemples ni de points de comparaison similaires à Victor. Donc c'est en quelque sorte une discussion continue, vivante, qui existe au quotidien. Et oui, en fait, c'est assez inédit de devoir gérer un joueur de 2m24. C'est pour ça qu'on va se poser la question aujourd'hui des GG à travers vos expériences. Je voudrais qu'on parle de ça. Comment gérer un gabarit hors norme. On ne parle pas de poids et tout ça en fait hein, là-dedans. Enfin, on peut tout englober, mais surtout la taille, là, parce que c'est ce qui pose le problème avec Wemby. Vous avez connu ça vous dans vos carrières. Fred, toi déjà, t'étais le grand qui un peu comme Wemby avant Wemby finalement, le grand qui voulait jouer à tous les postes. Dur à gérer un gabarit hors norme. On rappelle, tu mesures, Fred,
2m17.
2m17.
Mesure 2m17 et il faut se rendre compte qu'à l'époque 2m17 c'était absolument énorme, colossal, ouais. Les plus grands faisaient 2m10 et avaient du mal à bouger. Donc ils ont vu un mec de 2m17 arriver, un mec qui était capable de courir, qui était capable de sauter et qui bougeait plutôt correctement. Alors évidemment pas au niveau d'un joueur plus petit et pas au niveau d'un Wembanyama évidemment, mais quand même. Et donc d'un seul coup les mecs se sont dit mais comment on fait? Comment on gère ça? Comment on peut appréhender ça? Donc j'ai eu beaucoup de renforcement. Parce que justement au niveau du dos, parce qu'au niveau des genoux, parce que toutes les articulations qui sont sursollicitées quand on est très grand. Et c'est vrai que c'était pour moi, ça me semblait normal d'être grand en fait. C'est plutôt les autres qui ont voulu adapter la façon d'entraîner, la façon de me préparer, parce que il fallait faire attention à quelqu'un comme moi qui, encore une fois, une sorte de pionnier dans ce genre de truc. Donc c'est vrai que j'ai eu des entraînements très particuliers. J'ai même eu un coach, pour l'anecdote, parce que je vais jouer à l'autre Fred. Moi aussi j'ai des anecdotes. J'ai eu Michel Gomez qui m'a dit Fred. C'était ma deuxième année pro de mémoire. Il m'a dit Fred, avant de courir, il faut savoir marcher. Et comme tu es très grand, tu as marché. Et donc il m'a appris à marcher. Et donc pendant que les autres faisaient des footing pour se préparer, moi je faisais de la marche, ce qui me rendait complètement fou évidemment d'être mis à l'écart. Mais lui il me disait, quand on est grand comme toi, il faut déjà apprendre à marcher, apprendre à appréhender son corps. Et la meilleure façon pour lui c'était de marcher. Donc j'ai appris la marche, je sais plus comment on appelle ça, dynamique, marche dynamique, parce que lui considérait que c'était impossible d'avancer comme sans ça. C'est pas facile d'appréhender une grande taille comme ça. J'ai eu deux hernies discales, notamment la première qui m'a énormément stoppé dans ma carrière. J'ai été opéré par le professeur Saillant. Je me le raconte un peu. et en fait, lui m'a dit que certainement je ne pourrais plus jouer au basket après ça. C'est pour ça que quand on parle de grosses blessures, parfois c'est difficile de savoir exactement comment on peut faire. Parfois ton corps te limite aussi.
Et quoi, t'es un géant au pied d'argile en fait. T'es fragile de par la
Les géants sont des géants au pied d'argile en quelque sorte, non?
Oui, parce que le les leviers sont plus importants. Physiquement, c'est les bras de levier sont plus importants. Et à partir de là, forcément, on impacte plus. Quand tu fais 2m17, bah, quand tu te baisses, quand ton dos se baisse, bah, c'est pas le même poids, c'est pas le même rapport que quelqu'un qui fait 1m90. Donc forcément, c'est plus compliqué. Donc il a fallu apprendre plein de choses. Il a fallu essayer de se renforcer. Et malgré ça, je suis pas passé à travers les mailles du filet et opéré du genou, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais par contre, deux hernies discales.
Comment gérer un gabarit hors norme? C'est la question du vestiaire, les grandes gueules du sport. On a deux judokas. Vous vous pointez à 1m96 tous les deux, c'est ça, je crois, plus ou moins.
Ouais,
David, et donc ça, c'est hors norme. Non, mais vous étiez dans la catégorie.
Je me promène dans la rue parfois avec mes deux enfants là.
Non, mais en tout cas, vous étiez dans la catégorie des hors normes, en fait, des lourds, où il y a pas de limite.
Oui, c'est ça. Dès que, enfin, dans notre génération, dès que tu dépasses 1m90, là, voilà, t'es tout de suite grand. De toute façon, tu t'en aperçois quand tu t'assois dans un avion ou dans un train, en largeur comme en longueur, tu dis bon, là, ça a pas été fait pour nous, quoi. C'est clair.
C'est quand le biche il arrive pour te sortir du siège que t'as un dos.
C'est ça. Non, c'est le siège qui sort. Donc ça, c'est bon. La vie t'apprend ça très rapidement. Mais pour ce qui est d'un basketteur que Wemby ou ce qu'a été Fred. Et moi, ce que j'ai vécu, j'ai ressenti ça. Alors, je sais pas si tout le monde va être d'accord, mais à 15-16 ans, grosso modo, j'avais 17, j'avais atteint à peu près ma taille d'adulte, etc. Sauf que t'as l'architecture, t'as la boiserie, t'as de la carcasse, mais t'as pas encore le ciment autour. C'est complètement ça.
T'as grandi trop vite, en fait.
Bah, parce que tu grandis, puis les muscles sont pas encore là, ils viennent petit à petit, tu vois. Donc, t'as des physionomies où les muscles sont là très tôt et ils tiennent tout ça et ça se passe pas trop mal. Puis t'en as d'autres comme nous et Wemby, je pense qu'il en fait partie, où t'as besoin de t'épaissir, t'as besoin de la masse musculaire qui doit arriver au fur et à mesure, s'agglomérer autour de ce grand Tetris, enfin ce grand truc là, pour que ça tienne. C'est aussi bête que ça.
Mais donc toi t'as appris à construire ce corps.
Mais tu te le construis au fur et à mesure, donc tu fais de la muscu, tu te prépares pour ça, etc.
On me parle de bonnes recettes aussi.
Oh, des très bonnes recettes aussi, bien fournies en protéines. Bref, tout ça pour, à un moment donné, avoir un corps qui se tient. Et je pense que pour le problème de ce basketteur hors norme et surdoué, eh bien, il n'est pas encore à cette maturité physique-là. Il en a encore besoin. Il a besoin de prendre de la viande.
C'est pour ça qu'il grandit encore aussi.
Oui,
exactement. Tu peux commencer à prendre de la viande vraiment de façon intéressante à partir du moment où tu t'es arrêté de grandir aussi.
C'est ça. Une fois que tu auras pris de la viande, du muscle, est-ce que ce sera le même basketteur aussi? Il faut arriver aussi.
Il faut trouver un bon équilibre.
C'est ça l'équilibre, justement. Tu perds de la vitesse, tu peux perdre de la puissance, tu peux perdre tout ça, quoi.
Mais avant ça, c'est la protection aussi, parce qu'on l'a beaucoup dit, c'est le dos qui est au milieu des deux. Tu sais, entre la distance entre les pieds et la tête, c'est très, très grand.
Le pire, c'est le dos à gérer?
Le bas du dos.
Exactement. Et tu vois, il y a deux choses qui ont été dites. C'est des exercices de renforcement spécifiques. Et David, pour connaître l'histoire, il y a un mouvement qui a été inventé qui s'appelle le colon douille.
Ah oui, c'est vrai.
Le colon douille. Alors
c'est un mouvement de petite démonstration. Alors,
moi, j'ai beaucoup d'inquiétude quand il y a colon et douille dans le même
C'est super sérieux. En fait, Laurent Del Colombo, qui a été un des premiers pionniers poids lourds, qui a rencontré Yamashita, tout ce que tu voudras, lui, en fait, il savait qu'il y avait un problème parfois au niveau du dos. Et donc, on faisait de la chaise romaine. Sinon, on faisait des séries de colon douille. Après, c'est devenu un label, tu vois.
C'est quoi?
Et donc, chaise romaine avec des tractions de poids en même temps. C'est-à-dire que tu te mettais, tu vois, en tension sur une chaise romaine. C'est-à-dire que toi, t'es sur le dos en tension. Tu vois ce que c'est, une chaise romaine?
Ouais, non, ils savent pas.
Vas-y, dis-le.
Les téléspectateurs, ils savent. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça du tout. T'as une table avec un arceau qui te prend derrière les mollets ou au niveau des chevilles.
T'as le haut du corps
dans le vide. Tu vois, t'as l'extrémité de la table à la ceinture.
Ah oui, c'est quand tu fais des extensions de dos, là.
C'est ça, voilà. Exactement. Ah. Quand tu fais des extensions de dos. Donc, tu te mets en extension, mais tu prends des poids. Tu prends ou une barre ou des poids indépendants. Donc, tu restes en extension, tu travailles toute ta chaîne des ischios, des fessiers et des lombaires et ensuite tu travailles aussi tes rotateurs quand tu montes le poids de chaque côté, tu vois, mais en suspension avec des poids de 30 dans chaque main. C'est comme ça qu'on faisait, donc 60 kilos en maintien comme ça.
Mais ça, c'est donc
et on faisait des séries de 150 kilos et 200,
quoi. J'ai donné la deuxième chose.
Donc ça, c'est un exercice pour renforcer les grands, renforcer le dos.
Et la deuxième chose, c'est ce qu'a dit Fred, qui est très intéressant, parce que je connaissais pas le fait de marcher, mais tu enlèves très vite en fait l'impact à la marche ou à la course. C'est-à-dire que toi, un grand, surtout nous, on était avec des poids conséquents, on n'était pas que grand et maigre, on était aussi grand et grossièrement
lourd,
épais, lourd. Ça veut dire que tu enlèves tout ce qui évite course. Alors, hormis sur les appuis, tu vois, sur des sprints, ok. Mais par contre, les footings, etc., tu vas l'enlever parce que pareil, la lombalgie va se déclencher. Donc là, j'ai une petite anecdote. On a forcément fait beaucoup de vélo. beaucoup de vélo. Et j'ai une anecdote de David Douillet qui prépare les Jeux Olympiques de Sydney et qui fait donc du vélo. Et il s'éclate la grande gueule par terre. Et nous, on était au service de David pour sa préparation. Et on nous dit,
vous avez pu le ramasser.
Et David est tombé, c'est juste avant les Jeux. David est tombé, forcément, faut pas le dire. Attends, tu sais quoi, il n'y a plus de peau. Il a plus de peau sur le dos, il a plus rien. Et on est dans un espace de préparation où, comme on n'y avait pas de pognon, on était avec des gens qui étaient monsieur, madame, tout le monde, qui venaient faire tu sais, qui venaient avec nous, avec le plateau et tout, pour voir comment ça allait. Et David, il s'installe à table, il est blanc, mon pauvre. À la mort. On sait que les Jeux, c'est pas gagné. Et justement, le dos, il avait déjà mal. Donc, je savais même pas comment il allait être porte-drapeau du truc, tu vois. Et il y a un monsieur qui vient et qui dit, hey, bah, c'est toi, David Douillet? Et lui met, une grande dent dans le dos. Alors, comment il va, David Douillet? David, il a pris une suée, mon pauvre. Ça transpirait de partout, douleur de dingue. Il dit, ouais, c'est bon! Et le gars, il regarde, fait, eh ben, hey, pousse en l'air. Super, David Douillet. Il est plus sympa à la télé quand même.
Non, mais ça me fait penser à un truc. C'est que, finalement, quand on est grand, peut-être, il faut mieux apprendre à tomber. Aussi,
Quand on fait du vélo, il faut savoir tomber. Nous, on apprend à tomber, alors que paradoxalement, c'est dans les sports de combat, on a l'habitude, mais nous, on apprend à tomber, oui.
Oui, mais bien sûr, et si j'avais pas su tomber au moment de cet accident, parce que j'étais à 80, descente de col d'Em, tu vois, sur Bourg-Saint-Maurice, on était en stage, on venait de faire le col en vélo, etc. Fin du col, je prends une gamelle de dingue, j'ai le dos brûlé.
Les gabarits costauds, en plus, vous sollicitez beaucoup les bicyclettes, les pauvres vélos.
Ça veut dire quoi? Parce que je pense aux gens qui nous écoutent là, ça veut dire quoi apprendre à bien tomber?
Bien tomber, c'est accepter la chute.
Accepter la chute et l'accompagner.
Voilà.
C'est-à-dire que plutôt que d'être contre la chute et de se raidir et se durcir, bah, tu l'accompagnes en te poussant un petit peu.
Mais ça veut dire quoi? Vous faites des cours, on vous fait tomber en fait?
Ou en judo,
apprennent à tomber.
Et nous au basket aussi. Mais vraiment, si on se met pas en force, etc., on apprend, on se jette en arrière et on met ses mains juste pour accompagner le
genre là, Wemby, on lui apprend avec ses 2m24 bien tombé.
À son âge, il s'est tombé déjà.
Non, mais être tombé et surtout récupérer l'équilibre. Parce que les grands gabarits comme ça, quand tu es en déséquilibre avant, par exemple, pour attraper ta marche normale et tout, tu es tellement grand. Et puis, si tu mets le bras, si tu tombes, les segments qu'il y a, ils vont se faire super mal. C'est des gabarits hors normes. Donc, t'imagines, toi, la longueur de bras quand ils tombent par terre.
Ça devrait être appris dans toutes les écoles, ça, savoir tomber. Sans déconner. On cherche du fric pour faire des économies dans notre pays. Bah, rien que ça, ça coûte rien.
Pour
ouvrir l'histoire de la chute, et là où je rejoins David, la chute dans les EHPAD, les personnes qui tombent, 80% des personnes derrière, elles décèdent.
Et oui, bien
là, ça apprendre à chuter, c'est quelque chose de fondamental qui n'a jamais été vraiment creusé.
Tu vois que plus dans le sport de haut niveau.
Je vais t'apprendre à tomber
dans l'eau et je me suis cassé un truc. Alors, il faut être très fort.
Juste pour rebondir sur ce qu'il disait par rapport au vélo, nous, en fait, on fait que de la course et que des sauts. Donc forcément, ça sursollicite le dos, les genoux, les chevilles, et donc le poids est un inconvénient évidemment, mais la taille aussi. Donc on doit se renforcer, se muscler pour essayer d'éviter au maximum les problèmes.
Comment gérer un gabarit hors norme? C'est le sujet du vestiaire des grandes gueules du sport. Alors là, on parle de gabarit hors norme quand vous étiez dans votre carrière, quand vous étiez actif. Ça avait du sens quand vous étiez poids lourd en judo, quand t'étais dans la raquette.
Pourquoi
Fred,
tu dis avait
de... Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça avait en gros de mettre la barbaque.
C'est ça le problème.
Alors, c'est ça la question.
Dans l'après. Bah, c'est poids mouche, quoi.
L'après-carrière, ce corps que vous avez construit, ce corps hors norme qui en fait vous apportait quelque chose de très positif.
Oui.
Comment on le gère?
C'est dur. C'est comment te dire? T'as un corps qui est construit et qui se déconstruit parce que tu t'entraînes 10 fois moins, quoi. Tu vois? Donc, la bascule, elle indique le même chiffre. Et tu vois, à l'œil,
c'est plus la même position, n'est pas la même.
Ça change. Et c'est ça qui est terrible, toi. Et à un moment donné, ça change, et puis tu vois la bascule qui commence à augmenter. Et là, tu passes dans une deuxième phase. Donc c'est affreux. C'est affreux à gérer.
Non, mais c'est-à-dire, par exemple.
Et ben, tu te retrouves, comme moi, à 30 kilos de trop que j'essaie de gérer comme je peux. Parce que j'ai un estomac, un appétit qui a pris des habitudes.
Tu gères pas, toi. Tu digères, toi.
Ouais, je digère, t'as raison. Je passe mon temps à digérer. Mais quand je passe au buffet, ben, j'ai les mêmes réflexes qu'avant quand j'étais athlète. Je cramais 6 000-7 000 calories. Et bien là, j'en crame.
Et aujourd'hui, ton 500. Corps. Les articulations et tout ça.
Rentre pas là-dedans parce qu'il n'y a pas assez de temps pour l'émission. Les articulations, c'est une horreur. Si tu conserves pas un minimum de dynamisme musculaire pour pallier à tout ce que tu as eu tout au long de ta carrière, tu n'es qu'une douleur, mon vieux. Voilà, c'est ça.
Donc ça veut dire, David, que tu pratiques des disciplines encore sportives, tu t'entretiens au quotidien.
J'ai pas le choix, parce que si je fais pas ça, j'ai mon corps qui s'étiole, qui s'approvit, et toutes mes articulations partent en sucette.
Donc
et
par la douleur. Qu'est-ce que tu fais?
Mais je fais du renfort musculaire, je fais du pilates reformer, je fais du vélo quand je peux, parce que là j'ai mon coude qui m'embête, mais je fais ça aussi.
Attention au vélo quand même.
Ouais,
non, il me fait peur à chaque fois.
Mais c'est un message pour tout le monde, ça, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent. Non mais en fait ce qui est intéressant, David, c'est que ce corps-là qui aujourd'hui te dit te fait souffrir.
T'es obligé de l'entretenir.
Non mais pour toi c'était ton corps de super-héros.
Ouais.
C'est-à-dire que tu sais quoi, il y a pas un sentiment, tu te sens pas un peu abandonné par ton corps d'une certaine façon?
Non,
ça a été ton instrument.
Non, ça a été mon instrument. Si, c'est un instrument fabuleux. Puis là, bah tu passes à autre chose et tu sais que ça se dégrade, ta vue baisse, enfin tu vois. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter et l'entretenir. Il faut l'accepter et l'entretenir. T'as été dans la catégorie des Formule 1, bah tu passes dans la catégorie
des chevaux, pourquoi
des Twingo. La comparaison n'est pas bonne, mais enfin voilà. Quoi.
Alors moi, ma vie n'est qu'anticipation. C'est-à-dire que pour choisir ma voiture, il faut que j'anticipe. Quand je prends des billets de train, il faut que j'anticipe. Quand je me gare, il faut que j'anticipe. Parce que il faut que je sois suffisamment loin pour que je puisse sortir. Parce qu'avant, j'étais hyper souple. Sauf que je suis beaucoup moins souple.
Quand
je choisis ma voiture, j'ai des problèmes de genoux. Enfin, j'ai très mal aux genoux. Et par exemple, j'anticipe aussi tout le temps pour essayer d'éviter de monter par les escaliers.
Ton corps porte les stigmates de ta carrière de basket.
Évidemment,
les chevilles, par exemple.
Moi, je fais pas beaucoup de sport, mais par contre, je marche beaucoup. Ouais. J'ai à la fin de la journée, je suis obligé de mettre mes chevilles sous l'eau parce que j'ai trop mal aux chevilles, j'ai trop mal aux genoux. À un moment, oui, on a des stigmates. En plus, avec mon gabarit, je te dis, anticipation permanente. Quand on me change de wagon de la SNCF, je deviens fou, moi. Parce que je peux pas allonger mes jambes. Si je peux pas allonger mes jambes, je vais avoir mal pendant tout le trajet et je vais pas pouvoir marcher après.
J'ai pris le train avec Fred Weiss, on était dans un carré ensemble.
T'as vu comment j'ai eu du mal à rentrer?
J'étais collé à la vitre.
Non mais t'as vu comment j'ai eu du mal à rentrer?
Bien sûr, c'est pas adapté en fait.
Il y a une feuille de papier entre excès et excellence. C'est-à-dire que tu fais une telle dépense énergétique quand t'es athlète que même si t'es parfois dans l'excès, tu peux brûler les calories, tu peux te trouver à l'équilibre, tu peux être performant.
Et toi, ton après-carrière, c'est comment?
Moi, mon après-carrière, c'est
avec
quoi? Moi, j'ai dû me faire opérer. Moi, j'ai fait une sleeve, j'ai perdu 50 kilos parce que j'arrivais plus à gérer. Et je me suis fait soigner parce que j'étais tombé dans une maladie qui s'appelle l'obésité. Et à un moment donné, je voyais 150, 160 et j'ai passé la barre des 160 kilos. Je te raconte une histoire parce que j'en raconte rarement.
Une anecdote, tiens.
quand j'étais junior, sélection pour aller au Japon. C'est le rêve de ma vie. J'ai pas une thune, j'ai rien, j'ai jamais quitté la Normandie. Je pars au Japon avec l'équipe de France. Sauf que dans la convocation, c'est marqué venez en costume. J'avais jamais acheté un costume de ma vie. Ma mère, elle m'emmène à Tati. On avait des gros moyens. Et là, tu sais quoi? Ils m'ont trouvé un pantalon violet, une chemise jaune et une veste verte, tu vois. Autant te dire que j'ai morflé. C'est le seul truc dans lequel je rentrais.
C'est le seul truc à ta taille.
C'était le seul truc à ma taille. Et là, je te dis un truc. Je me suis fait opérer, j'ai perdu 50 kilos. Je suis allé dans un magasin et j'ai mes habitudes parce que quand j'étais gros, en surpoids et tout, j'avais que là que je pouvais m'habiller. D'ailleurs, il y a des judokas qui ont monté des magasins de prêt-à-porter parce que ça n'existait pas. Et j'arrive et la dame, elle me dit, depuis le début, vous étiez chez les hommes forts. Maintenant, vous avez perdu, vous êtes chez les hommes grands. J'étais super content. Et elle dit, voilà ce que vous pouvez mettre. Quelle couleur de costume vous voulez? Et c'est à 45 piges.
C'est là que t'as dit orange et
non, c'est à 45
piges. Merci d'être lien.
Pour te dire la différence de ce qu'on vit, c'est à 45 ans que pour la première fois de ma vie, j'ai choisi la couleur de mes vêtements.
Non, mais ça, c'est un luxe.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai jamais choisi la couleur de mes fringues. J'ai choisi celle qui m'allait.
Non, mais en plus, c'est hyper stigmatisant parfois ce que tu vis. Ce que là, on te dit aujourd'hui, fais partie des hommes grands alors qu'avant,
toi. Moi là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu veux, je suis rentré dans un monde où je me suis rendu compte, je m'étais jamais posé la question de la couleur de mes fringues. Jamais. J'ai toujours dit, putain, qu'est-ce qui va m'aller? Et je m'étais jamais dit, tiens, je voudrais mettre ça. On a des copains qui font 180 kilos à l'époque, il y avait Goffy, tu te rappelles. C'était une marque un peu élastique pour pouvoir mettre par-dessus le kimono. Les gars, ils se sont habillés en Goffy jusqu'à la fin de leur jour, tu vois. Parce qu'il y a qui rentrait que là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, il n'y avait pas Internet, tu ne pouvais pas commander tes pompes à Los Angeles.
Et rapidement, pour un dernier tour de table, si vous avez un conseil à donner à Victoire Wembanyama, sur justement la gestion de ce corps-là qui va l'accompagner toute sa vie.
De la patience, ça va venir et prendre la viande, quoi.
Oui.
Prendre la barbecue, voilà.
Il faut de la viande autour de l'os. Ouais. Il faut protéger. Tu vois, par exemple, un truc très simple. L'épaule, l'articulation. Si tu veux pas te la luxer, faut la renforcer. Donc, il faut être plus bœuf.
C'est ça.
Alors, j'aurais bien aimé lui dire, protège tes pieds, parce que c'est très important pour quelqu'un de très grand, sauf qu'il le fait déjà. Donc, je pense qu'il est vraiment sur un processus de prendre du muscle, de se renforcer les genoux, de se renforcer le dos et de renforcer les pieds.
Renforcer les pieds. Ben voilà, les conseils pour Wemby, c'est vrai?
Bien sûr.
C'est-à-dire?
Ah ben, sur du maintien, je me suis rendu compte que, tu vois, quand un jour, tu essayes de mettre ta chaussette, toi, sur une seule jambe, comme d'habitude, puis tu te casses la gueule, tu dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Tu vois? Et tu dis, non, ben, je vis. J'ai plus de maintien. Je fais du maintien.
C'est comme quand tu essayes de mettre ton caleçon en sautant, comme
ça. Ouais, non, mais.
Tu sais ce qu'il m'a fait, lui? Georges, tu sais ce qu'il m'a fait, lui? Moi, j'avais des chevilles énormes, tu vois, des grosses chevilles.
Ah, avec le poids des chevilles.
Et tu sais ce qu'il fait? On est en préparation pour les Jeux de Sydney. Et il y a 25 caméras qui arrivent pour faire l'interview, machin. David, ça le saoule. Et là, il dit, mesdames, messieurs, je vais vous montrer le truc le plus incroyable que vous avez jamais vu de votre vie. Et là, je vois 25 caméras qui s'allument. Truc rouge, pardon. Il fait, regardez, des véritables pieds de cochon. Et là, je vois toutes les caméras qui descendent vers mes pieds. Je suis sur les rushs de préparation de cité du monde. Donc, si un jour vous retrouvez des pieds assez costauds, un peu, voilà, ce sont les miens.
Un super pote, David. Mais en même temps, pote qui est aussi capable de te kidnapper pour te sentir.
C'est la famille. Ça, c'est la famille.
Allez, on referme la porte du vestiaire. C'était passionnant de vous écouter comment gérer un gabarit hors norme, évidemment. Très intéressant de vous avoir sur vos expériences. Tiens, dans quelques instants, on va parler judo, les amis. On a réécouté l'hymne russe, on a revu le drapeau hier au Grand Slam d'Abu Dhabi, parce que la Fédération Internationale de Judo l'a réautorisé. Est-ce que c'est compréhensible? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport d'Arline Droite, dans un instant, les jeux du sport. On va voir quel GG connaît le mieux le sport. Il y a un beau cadeau en plus pour vous à gagner. Mais d'abord, les amis, avec David Douillet, avec Fred Weiss, avec Fred Lecaille et Christophe Cessieux. Écoutez bien parce que l'hymne russe est de nouveau de retour sur les tatamis.
RMC, les GG sur le buzzer.
L'hymne russe en l'honneur d'Ayoub Bliev, vainqueur chez les moins de 60 kilos. C'est la première fois depuis plusieurs années que les Russes récupèrent leur hymne, leur couleur pour un tournoi de la Fédération Internationale. À partir de 2023, ils combattaient sous les couleurs de la Fédération Internationale. C'est fini.
Depuis 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'hymne russe a retenti, vous l'entendez hier, sur une compétition internationale de judo après le succès d'Ayoub Bliev au Grand Slam d'Abu Dhabi en moins de 60 kilos. C'est l'une des informations de la semaine. Alors que les Russes combattaient sous bannière neutre depuis 2023, la Fédé internationale de judo a réintégré cette semaine la Russie avec hymne et drapeau. Je vais citer la Fédération internationale. La Russie a toujours été une nation de premier plan dans le monde du judo et son retour complet devrait enrichir la compétition à tous les niveaux, tout en respectant les principes d'équité, d'inclusion et de respect. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, la Fédé internationale de judo réintègre les athlètes russes avec hymne et drapeau. Est-ce que c'est compréhensible pour vous? Oui ou non? David Douillet?
Non.
Fred Le Canu?
Oui.
Fred Weiss?
Non.
Christophe Cessieux?
C'est compréhensible et c'en est d'autant plus choquant.
On vous attend au 32-16 pour participer. Morgane Maury, notre voix du judo sur RMC, est là. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Tu commentais hier avec Fred Le Canu d'ailleurs sur RMC Sport. Morgane, cette décision de la Fédération internationale, elle a été beaucoup commentée cette semaine. Hein.
Vous entendez Albano, le chanteur italien de Felicita, bien c'est lui. Et avec son hymne, accompagné toutes les victoires russes en judo depuis plusieurs années.
C'est fou ça.
Et depuis hier, Ayoub Bliev est devenu donc le premier judoka depuis 2021 à entendre son hymne national. Ça s'est passé à Abu Dhabi après son succès. La décision a été rendue officielle jeudi matin. Les Russes n'étaient pas tout à fait prêts à Abu Dhabi. Aucun n'avait le judogi de l'équipe nationale. Ils ont retrouvé leur dossard avec les lettres RUS et leur drapeau. Stéphane Nomis, président de la Fédération Française de Judo, membre du bureau directeur de l'IJF, l'instance internationale, justifie cette décision.
Si on parle purement sportif, c'est toujours bien d'avoir tous les compétiteurs dans une compétition. Tu vois, les peuples, ils doivent se parler, ils doivent continuer à entretenir des relations pour l'après aussi, pour aussi l'après, faut pas tout casser, tu vois. Et je pense que c'est le sens aussi de la Fédération internationale, ce qu'elle a voulu donner aussi comme direction, tu vois. C'est plutôt pour apaiser, pour une paix future.
Un communiqué de l'IGF évoque ce choix comme le dernier pont vers la réconciliation et la paix. La Russie a été proche du pouvoir de l'IGF. Les sponsors des tournois ont longtemps été russes. Leurs judokas sont parmi les meilleurs du monde. La deuxième équipe masculine derrière le Japon, eh bien, c'est la Russie. Trois des 14 champions du monde en titre sont russes. Ce retour plein et entier fait suite de quelques semaines à celui des Biélorusses. Alors, il y a bien sûr des malheureux. Ce sont les Ukrainiens. Ils sont bloqués par ce retour, comme nous l'explique Artem Lesiuk, 7e des Jeux Olympiques 2020.
This is a very unexpected decision.
C'est une décision vraiment inattendue. Rien ne laissait présager cela. Cette décision menace l'existence du judo ukrainien dans un futur proche. J'étais vraiment choqué quand j'ai appris ça. À ce moment précis, on ne peut plus quitter notre maison et participer au judo international.
Don't do judo.
Lors de la réhabilitation des Biélorusses, les Ukrainiens avaient déclaré forfait au tournoi suivant. La semaine prochaine, Russes et Ukrainiens sont engagés au Grand Chelem de Tokyo. Quelle sera l'attitude des judokas au drapeau bleu et jaune? Ils n'ont encore rien annoncé. Difficile de les imaginer combattre comme si de rien n'était.
Reste avec nous, Morgane, évidemment, sujet passionnant là, la Fédé internationale de judo qui réintègre les athlètes russes avec hymne et drapeau. Est-ce compréhensible? David Douillet, tu nous as dit non. Pourquoi?
Non, parce que je trouve que c'est... Alors, que les athlètes participent, j'ai toujours été d'accord avec ça. Voilà. Mais sous bannière neutre et hymne neutre. Et je pense que c'est trop tôt. Voilà. Alors, peut-être que la Fédération internationale a des informations que nous ne disposons pas. Je suis entièrement d'accord avec cette passerelle entre ce qui se passe aujourd'hui et l'avenir, parce qu'il va falloir construire l'avenir avec la Russie, à tous les niveaux, y compris en sport. Mais... pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. C'est, en tout cas, pour l'hymne et le drapeau, la reconnaissance, c'est beaucoup trop tôt. Voilà.
C'est quoi, ça te dérange d'entendre l'hymne russe, là? Ça fait mal à l'aise?
Non. Pour être tout à fait franc, ça m'a fait plaisir de le réentendre. Voilà. Mais quelque part, ça me fait plaisir, mais les choses ne sont pas résolues, quoi. Ben voilà. Non, oui, mais... C'est trop tôt. Ça me fait plaisir parce que je me suis dit, ah, mais non, c'est pas résolu. Voilà, ça va me faire plaisir de le réentendre, parce que le signal pour moi, pour le réentendre, c'est que les choses soient résolues et que la paix soit revenue, qu'elle soit totale. C'est pour ça que j'étais à la fois content mais déçu, parce que je dis non, c'est pas fait. C'est un mauvais rêve, quoi, tu vois. Bon, donc voilà, c'est important que le monde du sport, je comprends la Fédération internationale qui se dit on va tendre une main pour que accélérer le processus, parce que quand on regarde un petit peu la réalité, là, depuis quelques jours, on sent que il y a des avancées, il y a des améliorations. On sent que Poutine vient de dire que, bien sûr, qu'on va pas déclarer la guerre à l'Europe, c'est complètement idiot.
Il y a eu des attaques aussi, toujours en Ukraine, hein, mais.
Toujours, bien sûr, mais on connaît le double discours de ceux qui se font la guerre. Il y a toujours de l'intox des deux côtés, etc., etc. Mais en tout état de cause, on se dit, bon, tiens, il y a peut-être une petite lumière qui s'allume, là. Enfin. Parce qu'on aspire tous à ce que la paix revienne et qu'elle soit durable et qu'elle perdure. Donc le message du sport, ok, je le comprends, mais pour moi c'est trop tôt, définitivement trop tôt.
Fred Le Canut, toi tu dis pas la même chose.
Non, je dis pas la même chose. Je dis que c'est compréhensible parce que on était dans l'entre-deux, c'est-à-dire que tu vois, il y a eu un passage où les Russes ne pouvaient pas faire la compétition de judo dans une discipline où les Russes sont incontournables de cet univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est étroitement lié avec cette équipe-là parce que ce sont de très grands compétiteurs. Et l'absence de Tassoev, par exemple, aux Jeux Olympiques de Paris, ça a été préjudiciable quand même à l'histoire qu'il y avait avec Teddy. C'était le grand adversaire. Tu vois, son absence, elle a forcément manqué. Et pourquoi est-ce qu'il
n'est
pas là?
Il avait la possibilité de venir.
Et voilà, pourquoi j'y vais. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Parce qu'il y a eu un quota limité sur ses bannières neutres, et donc du coup la Russie a préféré ne pas l'envoyer. Donc ça veut dire que c'est même pas qu'il était privé, c'est ultra compliqué.
C'est la décision de la Russie. Hein.
Oui. Ce que je veux juste te dire, c'est que ça fait des années maintenant qu'on commente une bannière neutre. Tu crois que quand je commente, je dis allez les bannières neutres? Bah non, tu dis, enfin déjà je dis pas allez les bannières neutres, ce sont les Russes. Donc ça fait des années qu'on dit les Russes, les Biélorusses.
Tu veux dire quoi? C'est mettre fin à l'hypocrisie, remettre le drapeau
à l'hymne? À un moment donné, le judo c'est gagner et perdre, la vie c'est vivre ou mourir, bien évidemment. C'est assez binaire et c'est dans une dualité. Si tu prends la décision de faire revenir les personnes, pour moi c'est plus facile de le faire dans l'entité globale, ou alors malheureusement tu prends la décision qu'elles ne reviennent pas. Et ce qui est très difficile avec ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est de commenter des nations, par exemple, comme la Russie, qui était même pas au classement général. C'est-à-dire qu'ils raflaient certaines fois toutes les médailles, mais ils étaient pas au classement. Donc, t'avais un autre pays qui était premier, classé avec une, deux médailles d'or et toutes les autres, elles n'étaient pas attribuées officiellement. Non, et même, je vais te dire un dernier truc.
Animé.
À un moment donné, tu as eu la Russie et la Biélorussie qui étaient ensemble sous bannière neutre. Et comme ils étaient ensemble sous bannière neutre, ça cumulait les médailles ensemble. Oui, c'est-à-dire que tu avais un espèce de pays annexe qui devenait la bannière neutre. Tu ne savais même pas s'ils ne pouvaient pas combattre ensemble.
Mais un hymne peut être considéré comme une célébration d'un une pays récompense. Dans un moment compliqué.
C'est une récompense. Voilà. Un hymne, c'est une récompense. Un drapeau qui se lève, c'est une récompense pour dire voilà, t'as gagné, c'est bravo, etc. Dans le commentaire, tu peux dire c'est un russe. Le gars, bon, c'est pas une récompense que de le nommer. Voilà, le russe, bah, TSEF, etc., etc. L'hymne et le drapeau, c'est autre chose. Et quand la récompense connote un pays tout entier avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, surtout, là, tu peux pas.
Avec ce que ça représente en plus pour les Ukrainiens, Morgan l'a très bien dit il y a quelques instants, Christophe.
Moi, j'ai pas du tout été surpris quand on connaît l'influence de Poutine auprès de la Fédération internationale, auprès du président Arthur Wieser. C'est un ami proche quand même. Non. Je veux dire, quand Wieser a été élu président de la Fédération internationale, il a mis Poutine en président d'honneur juste après, non,
David ? Écoute le temps que j'ai employé. Il l'est plus.
Ah, ils sont fâchés.
C'est pas qu'ils sont fâchés.
Donc c'est
que non, attention, là c'est parce que j'ai eu cette discussion avec le président de la Fédé internationale. Ils étaient amis. Ça a été extrêmement compliqué pour Marius Wieser, président de la Fédération internationale, de se dire putain mais qu'est-ce que je... c'est mon pote dans la vie et là il est président
président d'honneur,
etc.
Il s'est fâché avec lui au moment où la Russie envahit
il a pas eu besoin de se fâcher, il a pris tout simplement la décision de dire voilà, tu n'es plus président d'honneur, point.
D'accord.
Donc je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas dans leur intimité, ils sont peut-être fâchés, ils le sont peut-être, j'en sais rien, ils communiquent pas, j'en sais rien, mais
c'est quand même étonnant que ce soit la première grande fédération qui décide de réintégrer
je peux te dire que au démarrage, quand la guerre a éclaté, il a été extrêmement clair, d'accord. Extrêmement
rapide. Mais alors pourquoi maintenant ? Pourquoi décider comme ça ? Poutine n'est plus coupable. La Russie est redevenue un pays qu'on a le droit de fréquenter.
Il parle d'une main tendue.
C'est l'impression. C'est une main tendue. Mais pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'il met des grandes mains dans la gueule de l'Ukraine. Il continue à le faire. Je vois pas pourquoi aujourd'hui. On décide de réintégrer la Russie.
La question, qu'est-ce qui a changé ?
D'ici, oui.
Je suis d'accord, j'ai dit que c'était trop tôt.
En fait, on peut poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé, mais c'est surtout quand je vous écoute, moi j'ai l'impression qu'on est bien content au niveau sportif d'avoir les Russes, et c'est pour ça qu'on les réintègre, et que les sponsors, c'est souvent des Russes, et que c'est plutôt pas mal d'avoir les Russes dans le truc.
Avant, ça a été ça.
Oui, mais peut-être que c'est justement la volonté de retomber dans des choses. C'est l'image qu'on en a nous de l'extérieur. C'est-à-dire que rien n'a changé, mais pourtant on les réintègre parce que c'est bien d'avoir des athlètes russes sous leur bannière et c'est bien d'avoir potentiellement des sponsors.
Attendons de voir si la Russie va vraiment au bout du processus de paix, qu'elle décide d'accorder quelque chose à l'Ukraine,
pour que cette guerre
s'achève. Parce que tous les jours, il y a des mecs qui continuent de se faire massacrer à coups de drones. Et pendant ce temps-là, on dit la Russie, revenez, on vous met votre hymne, on vous met votre drapeau, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Moi, ça me choque, je suis désolé. Je suis entièrement d'accord, ça me choque aussi. J'ai dit que c'était trop tôt, etc. En tout cas de cause, il n'y a pas de raison de sponsor, parce qu'ils ont ce qu'il faut. Il n'y a pas de raison. Le seul truc, c'est que pour moi, c'est une énorme maladresse. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Maintenant, si l'idée, c'est de tendre la main, de toute façon, il faudra le faire, tendre la main.
Évidemment, réintégrement la Russie,
il y a quelques semaines, le Comité international paralympique avait ouvert la porte à ce que toutes les fédérations de chaque sport puissent en fait faire ce qu'ils veulent avec les athlètes russes. On sait que par exemple des fédérations, la Fédération internationale de ski, je crois, ne fait toujours pas revenir les Russes. Donc là, c'est un peu chaque fédération fait ce qu'elle veut par rapport à tout ça. Sujet compliqué, on continuera d'en parler et je suis sûr qu'en vue des JO d'hiver également, on en parlera énormément.
Ça sera terminé, j'espère.
On l'espère tous, évidemment. Là, ça fait quand même depuis quelques années que ça dure. Allez, les grandes gueules du sport dans quelques instants. Les jeux à venir, alors que Sébastien Ogier est en course actuellement pour aller chercher peut-être un 9e sacre mondial. C'est bien parti, on est dans la dernière spéciale. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec David Douillet, Fred Weiss, Christophe Cessieux, Fred Le Canut, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur, répartition des équipes. Christophe Cessieux avec Fred Le Canut et David Douillet et Fred Weiss ensemble.
Il n'y a que des Fred.
C'est ça.
Les plus légers avec les plus légers, les plus lourds avec les plus lourds.
Je vous rappelle la nouveauté depuis quelques semaines.
Ensemble quand même, ou alors les deux géants ensemble.
Il n'y a que des géants. Tu veux tuer mon géant, Christophe. La question impossible, je vous rappelle, est activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 2 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. On accueille les auditeurs, David et Arnaud. Salut David et Arnaud.
Salut, bonjour.
David, salut les gars. David, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec l'équipe Cessieux Le Canu ou Douillet Weiss.
Et ben, ce sera Douillet Weiss.
David avec David et Arnaud avec Fred Le Canu et Christophe Cessieux. On garde un œil sur Sébastien Ogier qui va peut-être être champion du monde dans quelques instants. Vous pouvez remporter, je vous rappelle, aujourd'hui un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Talacap de l'île de Ré. Allez les GG, écoutez-moi bien. Question à une seule réponse. Nice a égalé le record de matchs européens sans victoire. À combien s'élève-t-il? 17 bonnes réponses.
Ouais, mais c'est on a le proniste qui est ici.
S'il te plaît, tu laisses mon collègue, mes amis, frères.
Si, s'il te plaît, tu te calmes avec David.
Tu laisses mon frère Christophe, pour qui j'ai une immense admiration.
Question à plusieurs réponses possibles. Quelle ancienne légende des Pays-Bas a fait jouer son fils pour la première fois?
De football.
Ah, de football.
Ancien joueur.
Cruyff?
Non, bah non, il est.
Gullit?
Non. Plus récent.
Richard?
Plus récent.
Van Basten.
Non, plus récent.
Ah.
Et tu me donnes que les mecs de la même génération.
Hollande.
Quoi,
soit Hollande.
Non, non, Van Persie,
Van Persie. Van Persie, Fred. Si là, l'autre là-bas derrière,
Il marche même pas sur mes comptes.
Lui croit que c'est un ingrédient que tu mets dans les deux. Il sait même pas qu'il existe. On n'est pas en train de parler de ça.
Question auditeur, c'est pour vous, David Arnaud. David Arnaud, vous donnez la réponse, c'est votre prénom ensuite, ok pour vous.
Je vais te taire.
Face à qui joue l'OM ce soir?
Monaco.
Non.
Toulouse.
Qui a dit Toulouse?
Toulouse, Arnaud.
Arnaud, Toulouse, bien joué.
Très bien, Arnaud. T'es mon meilleur nouvel ami.
2-1 pour l'équipe Cessieux Le Canu. Question Relive, écoutez.
Quel match légendaire, champion olympique, 4-3 au japonais,
magnifique.
Il venait 3-3.
Mais quelle finale.
Le premier qui prend la main partira sur la réponse. C'était donc Teddy Riner qui a apporté le point victorieux à la France face au Japon pour gagner 4-3 au JO. Qui peut me dire quels sont les judokas à avoir apporté les 3 autres points? Gaba, tu commences, vas-y Fred, tu commences en premier. Allez vite.
Gaba, quoi, les 3?
Les 3.
Tu as Gaba, tu as Clarisse Agbenienou.
Ouais.
Je peux l'aider? Je peux l'aider ou non?
Le dernier?
Non. Putain, j'ai un trou. Gaba.
Les 3 points.
Si David connaît le dernier, c'est bon?
Non, attends, non,
Romain 5, Lambert. 4, 3, 2, 1. Pas de points pour Fred Le Canu. C'était Teddy Riner. Il a porté 2 points.
En plus, côté.
Non. J'étais en train de chercher.
C'est pervers, les jeux, les amis. 2-1 pour l'équipe Cessieux Le Canu, toujours.
Si tu fais des trucs comme ça,
question à une seule réponse. Question à une seule réponse, les GG. Face à quelle équipe va reprendre Dupont ce soir?
Racing. Merci, mon héros, mon dieu vivant.
Mais Grichon, mais sympa. 3-2.
C'est la première fois qu'on dit
Question à une seule réponse. Cette semaine, c'était les 5 ans de la mort de Maradona. Le plus proche l'emporte. Combien de buts Maradona a marqué durant sa carrière?
Je sais pas.
Moi, je dirais 850.
Combien?
850.
850? Allez, proposez-vous.
Moi, je dis 1030.
851.
728. C'était 343, donc c'est Fred Le Canu.
Merci beaucoup. Il faut savoir des fois être petit, David.
Tu savais rien du tout.
Le mec, il dit 800, tu dis 1000. Et ben moi, j'ai dit 700, et voilà.
Question auditeur, c'est pour vous, David et Arnaud. Quel joueur du PSG a disputé son 500e match cette semaine?
Dembélé, David.
Arnaud, c'est Arnaud. 5-1.
Bien joué, Arnaud.
5-1, c'est Le Canu. Question à une seule réponse. Quel pilote français est le mieux placé au classement des pilotes de F1?
Adjar,
David Douillet. 5-2. C'est bon.
WRC.
Question à une seule réponse, les GG. Où se déroulent les mondiaux de hand féminin? Oh, aux Pays-Bas.
Pays-Bas, Christophe Cessieux.
Bravo.
Victoire de l'équipe Cessieux, le
Canu. Oui.
Il
n'y
aura pas de question d'élimination aujourd'hui. Félicitations. Et c'est donc Arnaud qui s'impose. Bravo Arnaud, tu remportes un séjour pour deux personnes à l'hôtel Talakab de Lille.
C'est pour nous Arnaud, personnel. Prends du plaisir à du soir et mange trois fois.
Avec Talakab, le rendez-vous détente, relaxation et beauté sur l'île de Ré. Talakab, votre programme thalassothérapie au cœur de la nature.
Merci les grandes gueules du sport.
Merci Georges.
Merci David Douillet. Merci Christophe Cessieux. Merci Fred Weiss.
Rien, monsieur.
Merci Fred Le Canu. Déjà, on a un œil. On va avoir la réponse dans quelques secondes. Hein. Jean-Luc Roy est à l'affût. Sébastien Ogier est en ce moment en pleine spéciale au rallye d'Arabie Saoudite. Son grand rival Evans est passé déjà. Il a le meilleur temps provisoire pour l'instant. Si Sébastien Ogier, en fait c'est presque aussi simple que ça, va au bout de cette spéciale, il faut qu'il aille au bout sans problème. Il sera champion du monde pour la 9e fois et égalera Sébastien Loeb. Allez, on revient dans quelques instants pour les paris RMC et on suit évidemment le championnat du monde. À tout de suite.